3, 2, 1. Marceau le midi.
13h05. Vous avez les choses à me dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. C'est un feu roulant, cette émission-là.
Ça va vite.
Plein de monde, ça va vite. Pascal est en feu, est en train d'avoir des conseils pour le nouveau sport qu'elle va pratiquer, qui s'appelle le...
Dodgeball.
Le dodgeball, qui est un genre de ballon chasseur version 2024, c'est ça?
Depuis 2015 que ça existe. Réglementation refaite en Europe. Et tu m'as rendu insécure par rapport à mes compétences.
Et t'as demandé à un super athlète comme Bao, qui est un champion de boxe, quoi faire pour s'entraîner pour lancer un ballon.
T'as ouvert l'émission en me ruinant du côté de l'estime.
Oui.
Parce que moi, je le faisais pour le plaisir, jouer au dodgeball. Je réalisais pas trop dans quoi je m'étais engagée. Je me disais que j'allais être la cible par excellence pour manger le ballon d'en face.
Oui.
Toi, t'as dit, ben là, Pascal, avec tes bras de poulet, il va falloir que tu fasses quelque chose. Puis tu as comme... tu m'as rendu insécure, là.
Déconstruire pour mieux rebâtir.
Bien, clairement que là, il va falloir que je me bâtisse un bicep, là. Une puissance de bras.
Fait que là, Bao t'a donné des trucs, là.
Bien, là, il m'a dit, viens au gym avec moi. Puis là, il disait quoi faire. Puis étonnamment, il a dit une des choses que tu m'avais conseillé, soit de lancer un gros ballon lourd au mur.
Exact.
À répétition.
Pour faire travailler tes muscles. Hey, on s'en va au Mexique avec le chum Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Salut, Jérôme.
Salut Marceau, bonjour à vous deux.
T'es-tu en vacances dans un resort 5 étoiles?
Non, c'est rare que je fais ça, c'est rarement arrivé. La ville de Mexico, on le rappelle, hein, 25 millions de personnes, c'est énorme. C'est une ville qui est monstrueuse en fait. Là. C'est, quand on arrive en avion à chaque fois, la nuit c'est frappant avec les lumières. C'est comme si, pendant 45 minutes, on survole la ville. Là. On n'y croit pas, honnêtement. Je suis resté 3-4 ans. J'ai vécu ici. Là. D'ailleurs, je suis revenu un peu dans mon quartier, en fait, là, dans la Del Valle. Et à chaque fois, ça nous frappe quand même la taille de la ville. Écoute, c'est un peu comme si la ville de Mexico s'étendait de Trois-Rivières à Québec, d'une certaine façon. C'est délirant. C'est délirant, la taille de la ville.
Quand tu entendais le maire Labeaume dans le temps qui disait qu'il y avait beaucoup trop d'étalement urbain, toi, quand tu arrives à Mexico, tu dis, bon, le maire Labeaume, il en rajoutait peut-être un peu plus que le client de demande.
Oui. Donc, ça relativise beaucoup de choses. C'est ça qui est bon, en fait, avec le fait de voyager. Là. C'est-à-dire, ça nous donne un recul par rapport à notre réalité sur plein de sujets. Puis effectivement, là, tout ce qui est étalement urbain. Remarque que l'État de Mexico, c'est de l'étalement, c'est ça. C'est probablement exagéré, là, mais toutes les questions aussi environnementales. Il manque de l'eau ici au Mexique.
Ah oui.
Ça nous fait prendre conscience à quel point on a de l'eau aussi au Canada. Ben là, je fais déjà une parenthèse en partant, là, mais on est chanceux. On a beaucoup de chance au Québec et au Canada. Puis l'eau, c'est une ressource, tant qu'à moi, qu'on devrait protéger davantage, enfin.
Il y avait une grosse conférence à Mexico?
Oui, c'est ça. La raison principale pourquoi je suis revenu ici, encore une fois, c'est pour assister, couvrir, en fait, pour Libre Média, en fin de semaine, le samedi, la Conservative Political Action Conference, édition mexicaine 2024. Donc, c'était un grand, grand rassemblement, un grand événement qui réunissait de très nombreuses personnalités, là, associées plus à droite, il faut le dire, en Amérique latine. Malheureusement... Je venais quand même pour ça un peu, là. Mais Javier Milei, le président de l'Argentine, n'est pas venu. Il est à la dernière minute, il a annulé sa participation parce que le président mexicain ne voulait pas le recevoir. Bon, le président mexicain, lui, est très à gauche, lui est très à droite. Donc, malheureusement, bon, ça amenuisait un peu, disons, son prestige présidentiel que de ne pas être reçu par le président là, du pays hôte. Donc, c'est dommage, mais je me suis entretenu avec plein de gens. Là. Ça a duré une journée complète. Je pense que je suis resté à peu près 15 heures là-bas. J'ai fait le reportage est à venir à Libre Média. Puis, par exemple, je me suis entretenu, par exemple, avec le porte-parole en espagnol du Parti républicain, Jaime Flores, j'ai aussi une entrevue avec Agustín Laje, qui est probablement le commentateur hispanophone critique du wokisme le plus connu. Là, c'est quelqu'un qui est suivi par 1 million de personnes. Donc vraiment, il y avait une brochette d'invités là, très considérable. Par exemple aussi, le fils du président Bolsonaro, là, Eduardo Bolsonaro, là, qui est un Brésilien, un député fédéral du Brésil. Donc, le fils de Bolsonaro était là également. Tulsi Gabbard, là, dont on parle beaucoup, là, la fameuse l'ex-démocrate qui est en train de rejoindre le camp républicain. Il y avait toute une brochette, je peux vous dire, de personnalités politiques là, de haute importance.
Dans les dossiers que j'ai lus sur Libre Média, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. C'est le fondateur et PDG de Telegram qui a été arrêté une fois arrivé à Paris. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bien, c'est encore flou, en fait. Il y a beaucoup de mystères entourant l'arrestation. Puis c'est ça qui fait que c'est louche, c'est-à-dire justement les motifs des autorités ne sont pas clairs. Donc, rappelons, bon, Pavel Durov, qui est effectivement le fondateur, le président de Telegram, qui est un franco-russe et qui, de retour à Paris, il évitait la France depuis l'émission de son mandat d'arrestation. Donc, il retourne à Paris, il est arrêté, il est cueilli directement, finalement, à l'aéroport. Et on lui reproche, en fait, le manque de modération là, sur la plateforme Telegram qui aurait permis à divers groupes criminels d'opérer finalement sans contrainte. Donc, on l'accuse en gros de terrorisme, en fait, de complicité. Évidemment, c'est de la complicité. Lui-même n'est pas terroriste. C'est louche parce que, dans le fond, les autorités françaises n'ont pas révélé les documents. Hein. Donc, là, ça fait plus de 48 heures. Il n'y a pas d'information vraiment qui est sortie. Donc, ce qui fait dire à plusieurs observateurs, en fait, que est-ce que c'est un nouveau coup, en fait, des autorités, des gouvernements pour essayer de soumettre les grandes plateformes à leurs exigences? Hein? C'est-à-dire qu'on sait que les gouvernements veulent accéder aux données, finalement, des grandes plateformes comme WhatsApp, Telegram, pour, finalement, ben, les services de renseignement qui, veulent opérer avec ça, parce qu'évidemment, c'est des outils assez incroyable pour traquer les gens indésirables, les criminels, etc. Donc, c'est un coup. En fait, moi, mon interprétation, Marceau, c'est que c'est une attaque envers la liberté d'expression. Là. Ça fait un peu penser quand même, d'une certaine façon, au cas Assange.
Julian Assange, oui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que Doura va devenir une genre de nouvelle figure de la liberté d'expression, une sorte de nouveau martyr de la liberté d'expression? C'est pas impossible. Après, c'est vrai, il faut le dire, là, il y a beaucoup de groupes criminels qui opèrent sur les WhatsApp, Telegram et compagnie. On peut le constater, par exemple, pour la prostitution, etc. C'est clair que ces services de messagerie qui sont cryptés, évidemment, sont utiles pour les groupes criminels pour la simple et bonne raison que c'est crypté. Donc, c'est plus sécuritaire pour eux, finalement, de communiquer
au-delà de ça, Jérôme, je comprends ces plateformes-là. Effectivement, les terroristes peuvent passer par là, mais quand on regarde un peu ce qui se passe, quand on connaît un peu l'histoire du terrorisme, bien, il y en a beaucoup qui ont passé par les jeux vidéo pour se parler. Est-ce que ça implique que, justement, ces communications-là sur les jeux vidéo, sur ces plateformes-là, toutes les entreprises communiquent l'information aux services de police à la grandeur de la planète? Parce que sinon, ces gens-là se feraient tout arrêter.
Mais gars, c'est un bon point. C'est-à-dire, la question de la responsabilité. Est-ce que parce que vous, je ne sais pas, vous avez un restaurant, et là, s'il y a des gens de la mafia qui viennent dîner dans votre restaurant, est-ce que vous êtes tenu, est-ce que vous êtes complice finalement des complots qui ont été élaborés dans votre restaurant? T'sais, donc, la question est bonne. Là. Donc, les jeux vidéo, ça, c'est...
Y a-t-il une différence entre si vous le saviez ou si vous ne le saviez pas aussi que c'était des gens de la mafia? Il y a tellement de sous-couches à ça, là.
Exact. Non, gars, c'est ça, la question est excellente. C'est de la responsabilité, donc un peu par association. Donc, c'est ça qui fait dire à des observateurs que c'est une attaque envers la liberté d'expression et que finalement, Pavel Durov n'est pas un criminel. Donc, par contre, oui, il a refusé de collaborer avec les autorités, mais est-ce que toutes les grandes entreprises doivent être tenues de collaborer et de se soumettre finalement au gouvernement parce que ce sont finalement des gouvernements et que c'est eux qui veulent imposer finalement leurs normes et leur fonctionnement.
Mais si tu ne collabores pas, est-ce que c'est pas parce que justement tu veux peut-être pas commencer à donner d'informations qui pourraient t'incriminer toi aussi? Y a-tu ce qu'on peut voir derrière aussi qui serait apparent?
Il y a beaucoup de choses, c'est ça. C'est un dossier extrêmement complexe. J'ai lu aussi, bon, Pavel Durov, évidemment, bon, Telegram permettait aussi à l'armée russe en Ukraine de passer ses communications. Est-ce que Durov, qui est considéré comme un opposant à Vladimir Poutine, est-ce qu'il aurait été considéré finalement comme trop proche en fait du Kremlin, malgré qu'il avait pris ses distances officiellement avec Vladimir Poutine? C'est sûr que là, on parle, c'est des niveaux, tu sais, évidemment, de jeux d'influence, c'est des jeux qui nous dépassent complètement, là. Donc, il y a plusieurs questions. Évidemment, la question de l'Ukraine, de la Russie, c'est un gros dossier. C'est vraiment un gros dossier.
Autre gros dossier que vous jasez sur Libre Média, c'est le cas de Mark Zuckerberg, le big boss de Facebook qui a admis avoir collaboré avec l'administration Biden, puis qu'aujourd'hui regrette un peu d'avoir collaboré avec l'administration. Est-ce qu'on revient avec l'histoire de la COVID?
C'est ça, ben, ça c'est énorme. Écoute, tant qu'à moi, c'est l'actualité de le fait d'actualité de la semaine. Donc, oui, Zuckerberg, mais regarde, tu vois, est-ce qu'on vient de poser la question, est-ce que les grandes plateformes doivent être tenues de collaborer avec les autorités? Zuckerberg l'a fait, il l'admet et il le regrette. Donc, Zuckerberg qui dit dans une lettre ouverte, là, adressée au Sénat américain, qu'il regrette en fait d'avoir collaboré avec le gouvernement américain pour censurer divers contenus liés à la COVID-19 en 2021.
Et l'humour aussi, puis la satire, Jérôme.
C'est ça, on comprend que c'est très, très large. Mais c'est pour. Moi, je trouve que, bon, je trouve ça déplorable que Facebook, justement, se soit plié à ça. Mais, gars, tu vois, est-ce que si Zuckerberg refuse de collaborer à nouveau avec le gouvernement américain, est-ce que Zuckerberg va connaître le même sort que Pavel Durov? C'est ça la question. Est-ce que Elon Musk est le prochain Pavel Durov? Est-ce que les présidents des grandes plateformes, dès maintenant, doivent craindre pour leur sécurité, entre guillemets, dans certains pays? C'est quand même la question qu'on pose. Est-ce que Elon Musk va être maintenant à l'aise de débarquer en France? Après l'arrestation de Pavel Durov à Paris, est-ce que le fondateur de Rumble, par exemple, Chris Pavlovski, qui lui-même a quitté l'Europe juste après l'arrestation de Durov, parce qu'il craint de subir le même sort? Donc, toute cette fourchette, cette brochette de grands PDG, de gestionnaires des grandes plateformes, disons qu'ils sont dans une position qui est extrêmement délicate. Donc, Zuckerberg, mais je trouve par exemple que je salue moi son courage. Évidemment, il ne m'écoute pas ce matin, là, mais je trouve ça quand même, je trouve ça bien Zuckerberg. On le sait, c'est un démocrate, il a des opinions, disons, assez tranchées, tout ça. Puis, des fois, ça transparaissait beaucoup sur Facebook, mais je salue quand même son honnêteté. Puis, je trouve que c'est positif d'envoyer ce message-là, comme quoi Facebook, Meta, dorénavant, ne sera pas aussi mou finalement avec les gouvernements. Donc, on peut se poser la question. Zuckerberg publie cette lettre-là le lendemain de l'arrestation de Durov à Paris. Donc, est-ce que Zuckerberg veut envoyer un message? Est-ce que c'est une manière pour lui de prendre position un peu contre le Parti démocrate alors qu'on bon, en pleine campagne présidentielle? C'est tout un revirement quand même, là. C'est vraiment intéressant.
À suivre sur Libre Média. Jérôme, je te souhaite un bon retour à la maison. Tu reviens quand à Québec, là?
Je reviens jeudi soir.
Jeudi soir. Tu n'auras pas un gros écart de température. Là. Je peux te le dire aujourd'hui, si tu es à l'extérieur, c'est une température ressentie de 33 degrés actuellement.
Mon Dieu, il fait plus chaud à Québec qu'à Mexico. Ben oui, ben plus chaud.
Salut Jérôme.
Merci beaucoup, à bientôt, bonne semaine.
Merci beaucoup. Bye-bye. L'excellent Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Particulier ces dossiers-là, hein? Des propriétaires de grandes plateformes, Pascal, qui se voient arrêtés par certains policiers qui disent attendez un peu, là, on a quelque chose à vous dire.
Mais pour la responsabilité, tu sais, collective, moi, si j'avais une entreprise qui était privée, dans ma personnalité, je prendrais certains devants dans tout ce qui est éthique et morale, selon ce que moi j'analyse, puis ce que je vois avec mes valeurs personnelles, assurément, ouais. Dans la défense du droit à la parole, puis du droit à l'information, puis de la liberté d'expression, moi, il y a toujours eu une limite à ça. Okay. Je ne suis pas la libertine sur le droit à la parole puis le droit d'expression total. Puis c'est une opinion que j'ai toujours expliquée en disant c'est pas vrai que chaque opinion se vaut en société et c'est pas vrai qu'on doit penser qu'il n'y a personne d'assez influençable pour suivre quelqu'un qui aurait le droit à la parole, qui monterait les uns contre les autres. Mais encore là, ça dépend de tes valeurs et ton éthique personnelle.
On s'entend probablement sur l'incitation à la haine et tout ça. Moi, je te suis. Je pense que Facebook aurait dû se limiter à démystifier le vrai du faux. les fausses nouvelles. Mm-hmm. D'un bord comme de l'autre, c'est quoi les fausses nouvelles? Puis si on réussit à prouver que ça, c'est une fausse nouvelle...
On l'enlève.
Non, tu la tags comme étant une fausse nouvelle en donnant les explications réelles en dessous pour que les gens puissent se faire justement leur propre idée du dossier. Moi, j'aurais fait ça, mais Mark Zuckerberg a plié un peu. Hey, je veux dire, quand tu as une caricature, exemple, qui montre la COVID puis les gens qui paniquaient versus d'autres gens qui étaient tranquilles dans un autre monde, puis là, ben, on faisait disparaître cette caricature-là. Hey, c'est de la satire. Là. Je veux dire, c'est de l'humour, là. C'est une forme d'expression. Tu enlèves ça.
Il y a le droit en tant que propriétaire d'une entreprise privée.
C'est-tu un volte-face face aux démocrates? Est-ce que Zuckerberg voudrait maintenant encourager les républicains par cette sortie-là?
Oh, je suis pas prête
parce que ça va nuire aux démocrates.
À affirmer ça, mais on sait pas la première fois qu'on aurait vu, par exemple, un président d'entreprise prendre part, puis... c'est ça, prendre part aux élections comme s'il en était fervent membre. Ouais. Là. Est-ce que c'est ça? Je suis pas prête à aller là.
À suivre! 13h21, vous avez des choses à nous dire. 88-971-1021, 88-971-1021, puis poursuivre Jérôme Blanchet-Gravel. C'est assez simple. Libremedia.com. 102-1.